Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h45, les grands débats ce matin avec Arlette Chabot, bien sûr, vous appelez 0826 300 300, puis on va faire un bilan sur la première semaine de ce sondage IFOP fiducial pour Paris Match et LCI et Sud Radio, les présidentielles en temps réel avec Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour à tous.
Oui, Arlette Chabot qui est avec nous toujours, bien sûr, Éric Revel tout à l'heure, et vos appels 0826 300 300, donc il paraît qu'il va y avoir une présidentielle. Je dis ça parce que...
Non,
je dis ça parce que c'est vrai que comme il y a le Covid qui prend le dessus en fait en ce moment et les thèmes de campagne, on a du mal à les voir venir. Alors ça vient un petit peu, il y a des propositions un peu éclatées des uns des autres, mais il y a quand même cette présidentielle qui arrive, bien sûr. Elle ne doit pas être éclipsée par le Covid. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que certains disent... Emmanuel Macron a tendance à entretenir certaines choses autour du Covid pour ne pas non plus qu'on parle peut-être de son bilan et que l'on parle en fait de la présidentielle. Je sais pas. Bon, ça, ce sont des mauvaises langues, hein, forcément. Bon.
Éric Zemmour, ouais, ça, pardon.
Voilà,
dit,
c'est
hein.
ça. Non. Donc, on a lancé ce sondage, ce rolling avec Paris Match, l'IFOP fiducial et LCI.
Comme en 2012 et en 2017.
Comme en 2012 en 2017. On rappelle, hein, c'est une photo en fait. Rappelez-nous d'ailleurs un peu le principe.
Hein. Oui, alors. Le rolling, c'est une enquête d'un sondage classique, sauf qu'elle est quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, nous interrogeons 500 personnes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, nous avons 1500 personnes. Et c'est un sondage glissant, c'est-à-dire que les personnes interrogées le plus quelques jours avant sont enlevées au fur et à mesure. À J+3, on interroge de J+1 à J+3. À J+4, on enlève les personnes interrogées à J+1. C'est un sondage glissant. Quand on fait le reproche parfois justifié au sondage d'être des photographies, qui est une certaine discontinuité entre les différentes enquêtes. Là, comme nous sommes sur le terrain, nous interrogeons 500 Français tous les jours, 1000 Français par jour dans les 4 dernières semaines du vote, ce qui fait qu'au final, on aura interrogé 50 000 électeurs, Patrick. Ouais. Eh bien, on est moins sur une logique de photographie que, modestement...
Oui, mais alors, les gens vont dire, oui, mais sorte, vous interrogez...
D'une sorte de film de la campagne.
Mon cher Frédéric Dabi, les gens vont dire mais vous vous interrogez qui en fait? Moi, j'ai pas été interrogé. C'est qui? Ils sont toujours les mêmes.
Vous savez, voilà quelque chose. Non, mais
je sais. Mais
vous
ça...
avez raison. On a fait ce travail de pédagogie avec Valérie Expert lundi. Il y a 46 millions de Français inscrits dans les listes électorales. On aura fait le tour de force en fin de campagne d'interroger plus de 50 000 personnes. 50 000 sur 46 millions.
Ouais,
c'est vrai
sûr.
Que c'est beaucoup, mais c'est peu.
Mais ça doit être représentatif, toujours la population.
Chaque jour, on est sur une mini-France interrogée en termes de sexe, d'âge, de profession, de région. Les gens qui disent qu'on n'interroge que des Franciliens, c'est faux. Et de catégorie d'agglomération, on interroge non seulement des urbains, des Français de la France périphérique, mais également des ruraux. Les 25% de Français vivant en commune rurale sont interrogés, sont à leur poids tous les jours. Donc on est sur une logique glissante et relativement douce. Oui. Il est rare, vous connaissez Patrick et vous Arlette en 2012 dans une radio passée,
concurrente
et amie bien sûr, l'histoire du rolling, il est rare que d'un jour à l'autre, ça bouge beaucoup.
Non, mais les deux cas... Il colle un peu. Oui. Et il a collé en fait lors des deux précédentes éditions.
On touche tous du bois, on touche tous du bois, on tue un poulet, mais c'est vrai que les deux derniers rolling ont plutôt très bien marché, puisqu'on était plutôt sur des évolutions douces pour voir les évolutions notamment en fin de campagne. Maintenant, la question de la participation, vous en parliez.
Alors,
parce que quand on parle du Covid, quand on parle de cette campagne qui est un peu figée, qui est un peu phagocytée par le Covid, de beaucoup de Français, et on a vu cette mécanique se mettre en place au municipal et au régional, ils se disent mais à quoi bon voter? La campagne est tronquée, on n'aborde pas les vrais sujets. Dans notre enquête de rolling à IFOP fiducial d'hier, on a vu des indicateurs hebdomadaires où, certes, la santé est le premier enjeu, mais le pouvoir d'achat est un enjeu très fort. Jamais le chômage a été un enjeu aussi fort. Mais pour l'instant, je dirais que les thématiques de campagne, les thématiques autres que la question Covid, peinent à émerger dans le débat public. Ça peut bouger très très vite, bien sûr.
Oui, alors c'est ça. Et, on va revoir un peu dans un instant l'ensemble en fait de l'évolution de cette semaine qui est en tête, qui monte, qui descend un petit peu. Et mais est-ce qu'il y a un intérêt? Là, vous avez posé quelques questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a un intérêt pour cette campagne de la part des Français aujourd'hui?
Alors, il n'est pas négligeable. Il est à 69%. Il est inférieur à celui qu'il était en 2017, assez nettement. Mais si je prends un autre sondage IFOP fiduciel pour Sud Radio, le baromètre Paris Match, on a vu dans les conversations des Français quelque chose de très spectaculaire. On avait les 6 premiers sujets étaient des sujets Covid, de la mort des Bogdanov, de la déclaration du président suremmerdée des non-vaccinés, de la crainte du virus. On a une campagne qui, pour l'instant, est phagocytée. Les Français sont polarisés par ces questions. L'intérêt pour la campagne présidentielle n'était que de 51%. Il était de 59% en 2017. C'est quand même assez décalé. Ouais. Et n'oublions pas qu'un intérêt faible, qu'est-ce que ça fabrique ? Ça fabrique une non-participation et une abstention. Est-ce que le record du 21 avril 2002, les 28% d'abstention, va être battu ? C'est un vrai risque.
C'est l'un des enjeux. Ah,
pour moi, c'est le premier enjeu. Avant même de regarder nos rapports de force, est-ce que les Français vont aller voter ? On se souvient que les enquêtes d'opinion ont mal fonctionné au régional parce que l'abstention avait absolument tout chamboulé.
Et là, est-ce que vous pouvez vous en rendre compte à travers votre rolling ?
Oui, puisque nous posons un indicateur de participation, nous croisons des données entre elles, mais il faut se parler franchement et modestement. Le comportement abstentionniste est un comportement assez difficile à, je dirais, détecter. Et bien sûr, il va être très indexé sur la tonalité de la campagne, sur les débats, sur les dynamiques. On se souvient qu'en 2017, notamment les débats télévisés d'avant le premier tour, avaient finalement favorisé la participation.
Oui, Arlette Chabot, question peut-être sur ce que vient de dire Frédéric Dabi.
Oui, c'est-à-dire que au fond, tout le monde a intérêt à ce que l'épidémie s'arrête, vive Omicron, qu'on passe à autre chose et il restera une campagne extrêmement courte. Et en fait, est-ce que c'est si, comment dirais-je, dommageable que ça ? Parce qu'au fond, on voit bien que l'intérêt, la cristallisation, elle se fait dans le dernier mois, le mois et demi.
Oui, c'est souvent le cas, même s'il y a eu des campagnes présidentielles où tout était écrit 6 mois, 9 mois avant, celle de 88.
Mais ça n'a pas marché non plus,
celle de 2007. Mais c'est clair que oui, avec une campagne courte, beaucoup plus courte que 2017. 2017, elle avait commencé 2 ans avant avec la primaire LR, notamment. La cristallisation sera tardive. Hein. On a commencé à poser des questions sur les décisions de vote. Elles paraissent déjà très, très tard. Les gens ne sont pas vraiment dans la campagne présidentielle parce que, comme on le disait, et ça va être Covid.
Et c'est ce qui peut faire bouger aussi, évidemment, les intentions de vote. Alors, si on fait le bilan de cette semaine, vous avez démarré avec Emmanuel Macron, qui était haut, qui est très haut, et il est à 27...
Oui. 27, il a un peu reculé hier à 26,5. C'est vrai que moi, je verrais 3 grands enseignements. D'abord, un président sortant en pole position, à un niveau élevé, 26,5%, 27, c'est au-dessus de son socle électoral de 2017. Le dernier président qui avait fait mieux que son score de président élu, c'était François Mitterrand en 88. Donc un Emmanuel Macron qui arrive toujours à rassembler son camp et à braconner, si je puis dire, à gauche et à droite, je dis bien aussi à gauche.
À braconner.
À braconner, à capter en gros 20% de l'électorat Fillon, 25% de l'électorat Hamon, etc. Deuxième enseignement, c'est d'abord une incertitude. Puisque d'une part, le ticket d'entrée pour le second tour est extrêmement bas. Il est à 16-17. Il n'a pas été aussi bas depuis 2002, avec Jean-Marie Le Pen devançant de peu Lionel Jospin. Et on a une incertitude entre 3 candidats qui se tiennent en 3 points, c'est-à-dire presque dans la marge d'erreur. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, qui hier arrivait en deuxième position avec
17%. Alors c'est ça, on rappelle 17, les scores.
Hier, là, de 17% pour... Donc hier, 26,5% pour Emmanuel Macron, 17% pour Valérie Pécresse, 16,5% pour Marine Le Pen et 13,5% pour Éric Zemmour, qui a gagné quand même 1,5 point depuis le début du rolling. Voilà, l'idée qu'il allait s'effondrer inexorablement, pour l'instant, est démentie par le rolling.
Ouais. Et Marine Le Pen était au-dessus en début de semaine, et là, elle passe légèrement dessous.
On va se parler franchement. Patrick, ça n'a pas une importance fondamentale. C'est vrai, l'ordre d'arrivée compte, bien sûr, pour
ce sera fondamental.
Ça sera fondamental le 8, 9 et 10 avril. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a 2 candidats qui se tiennent très nettement, 2 candidates, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Marine Le Pen est quand même gênée par le fait qu'on a, dans notre rolling d'hier, quasiment un tiers, 32% je crois, de l'électorat Le Pen 2017 qui choisirait Éric Zemmour. Cette primaire sauvage de droite extrême la gêne, même si on dit que ça la normalise, même si on dit que ça la permet de, l'étiquette
du diable
maintenant, c'est Éric Zemmour, ce n'est plus elle, mais quand nous testions encore il y a quelques semaines des hypothèses d'intention de vote sans Éric Zemmour, elle était haut la main, deuxième face à Emmanuel Macron. Ouais. Le troisième enseignement, pour moi, c'est le plus historique et le plus terrible, c'est le niveau de la gauche. Le niveau de la gauche tangente à peine 23-24%, c'est du jamais vu dans une campagne présidentielle. Il n'y a pas un candidat de gauche en situation de dépasser les 10%. Jean-Luc Mélenchon était à 9,5%. Cette gauche dispersée, inaudible, est en voie d'évaporation, est en voie d'effacement. Elle n'a pas disparu auprès des Français. Quand on interroge les Français sur le positionnement politique, on a en gros 44%, 45% qui, sur un axe gauche-droite, se positionnent très à gauche, à gauche.
C'est ça qui est étonnant.
La traduction électorale, c'est 20 points de perdu. On disait, où est Charlie ? Où sont passés les 20 points ? Eh bien, ils sont dans l'abstention. Ils sont chez Macron. Ils sont un peu chez Éric Zemmour, un peu chez Marine Le Pen, mais surtout, ils sont évaporés. Ils ne vont pas dans cette offre de gauche qui est dispersée et on attend une candidature imminente de Christiane Taubira que nous testons.
Alors que vous testez, oui, alors...
Elle n'est pas inexistante, elle est montée à 3,5, 4, elle est à égalité ou juste devant Anne Hidalgo, elle tangente Yannick Jadot qui est très gêné par la candidate bis, à savoir Sandrine Rousseau, qui l'empêche de se déployer, se faire connaître et d'entretenir, de construire une relation avec les Français. Clairement, le paysage à gauche est absolument catastrophique. Exception peut-être de Jean-Luc Mélenchon, qui bénéficie d'une sorte d'un début de vote utile et d'un segment identifié.
Dans la
gauche
semaine,
radicale.
Il n'a quasiment pas bougé.
Il ne bouge pas, entre 9 et 9,5.
Yannick Jadot est toujours aux environs de 7.
Oui, c'est à 6,5-7.
6,5-7. Et puis Anne Hidalgo,
3,5-4.
3,5-4. Arlette Chabot.
Oui, est-ce que l'entrée officielle en campagne d'Emmanuel Macron peut changer les choses ? C'est-à-dire le faire un peu éventuellement chuter ? Ou ça ne changera rien à la campagne.
Alors honnêtement, personne.
Tout le monde a compris qu'il était candidat, bien entendu.
Tout le monde a compris,
hein,
il a fait entendre. J'ai envie, il est passé le mystère mitterrandien jusqu'au 23 mars 88, mois avant. Il n'y a pas de règle. En 81, Giscard d'Estaing entre en campagne, il baisse très très fortement. En 88, François Mitterrand, très très tardivement, il ne bouge quasiment pas. En 2012, plus récemment, Nicolas Sarkozy entre en campagne, il progresse parce qu'il avait déjà commencé une petite dynamique. Donc je dirais qu'il n'y a pas de règle. Maintenant, comme vous le dites, Arlette, les Français savent très bien que Emmanuel Macron sera candidat pour un second mandat.
Oui, d'autant qu'il est clairement en campagne, puisqu'il est allé à Nice pour annoncer en fait un plan pour les années qui viennent.
Oui, tout à fait.
Mais quand on dit si c'est pas un candidat en campagne, c'est bien sûr. Dire, ça y est, je me lance. Surtout qu'il faut expliquer pourquoi on brigue un deuxième mandat.
Oui, absolument. Allez, merci pour toutes ces explications particulièrement intéressantes, merci. Frédéric Dabi. On va suivre avec attention ce rolling en fait en permanence. Dans un instant, on va voir aussi qu'il y a des sujets comme ça qui émergent, qui étaient déjà présents, qui avaient un petit peu diminué. C'est par exemple toutes les questions autour du pouvoir d'achat. Ça, et ce que vous avez dit tout à l'heure dans ces enseignements, Frédéric, le pouvoir d'achat, notamment c'est le pouvoir d'achat qui...
Santé, délinquance, insécurité, pouvoir d'achat.
Oui, voilà, c'est ça. On va voir avec Robert en campagne. Il est en campagne, il est sur son cheval, il arrive dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Le Grand Matin Sud Radio, mais surtout les grands débats ce matin avec Arlette Chabot, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, toujours avec nous. Et puis ce matin, Éric Revel en campagne. Bonjour Éric.
Bonjour Éric.
J'arrive en courant.
Oui, vous arrivez en
cheval,
courant. On l'a dit à cheval.
Comme Éric Gaspard Revel. Koenig. Voilà. Ma campagne à cheval.
Oui, Éric Revel. Alors donc, il y a cette question du pouvoir d'achat qui s'impose, on le disait avec Frédéric Dabi tout à l'heure, de plus en plus dans cette campagne présidentielle, alors que finalement, il y avait d'autres thèmes qui avaient été dégagés, puis là, ça revient. C'est la une du Parisien, c'était notre une ce matin sur Sud Radio aussi, parce que il y a une reprise très forte en fait autour des prix.
Il y a une reprise très forte autour des prix, alors évidemment la Covid et la gestion politique de la Covid masquent tout ça, comme vous l'avez dit, mon cher Patrick, mais quand vous regardez dans le détail, bon, je vous passe l'augmentation des prix des carburants, des matières premières à cause de la reprise de l'économie mondiale, l'inflation en France, en réalité, est proche de 3%. 3%, ce qui est quand même considérable. Le chiffre va être annoncé, je pense, dans demain, enfin peut-être lundi. Et quand vous avez une inflation de 3%, ça veut dire que les fabricants, qui eux achètent leurs matières premières chères, eh bien, répercutent les hausses des coûts de production dans les prix. Et en bout de chaîne, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Et ces hausses de prix amputent évidemment un peu plus le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat. Voilà pourquoi, évidemment, la question du pouvoir d'achat, Frédéric Dabi l'a dit tout à l'heure, c'est la question première, c'est la première préoccupation des Français qui, eux, le vivent sur le terrain pour cette présidentielle.
Oui, et alors les candidats de droite comme de gauche ont évidemment des propositions autour de ce sujet.
Oui, alors elles sont un peu encore inaudibles, je trouve. Et Anne Hidalgo propose une augmentation du SMIC, on en parlait hier, de 15%. Mais attention aussi là, parce que le diable est dans les détails. Quand vous augmentez le SMIC de 15%, en fait, vous poussez à la hausse toute la grille des salaires de l'entreprise. Et paradoxalement, ça a également un effet inflationniste. Et puis, il y a aussi la grande distribution qui surfe, vous l'avez dit ce matin, Patrick, sur cette affaire de pouvoir d'achat avec Édouard Leclerc, qui évidemment fait un énorme coup de com' avec ses 29 centimes la baguette. En fait, c'est du classique dans la grande distribution. Hein. Vous faites mine de vous soucier du pouvoir d'achat des gens, vous faites un produit, un prix d'appel sur un produit, et puis vous augmentez les produits à côté pour que les gens viennent remplir leur caddie. Donc, au nom du pouvoir d'achat, ben, on voit bien que tout le monde s'y met, les politiques, la grande distrib. En réalité, les Français les plus en difficulté, il faut le rappeler, ils veulent vivre décemment du salaire de leur travail. Et ce qui est intéressant, parce que là, personne n'en parle, Patrick, c'est que les experts de la chose économique indiquent que pour 2022, le pouvoir d'achat moyen des Français va reculer avec tous les effets que je viens de vous donner.
Oui, c'est ça. Alors, le gouvernement, face aussi à cette augmentation des prix, notamment dans l'énergie, bah, ils ont annoncé, par exemple, des chèques énergie. Comment réagir, en fait, de nouveau ? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir de nouvelles vannes, de nouvelles aides ?
Alors, le gouvernement, évidemment, il sent le danger politique. Arlette Chabot en a parlé. Il sent le danger politique, ce nouvel effritement du pouvoir d'achat des Français actifs, mais aussi des retraités. Hein. Et pourquoi je vous parle des retraités dont le pouvoir d'achat s'effrite ? Parce que c'est une base solide pour Emmanuel Macron, pour sa réélection. Alors du coup, vous l'avez sans doute noté, Bruno Le Maire, lui, s'invite tout à l'heure sur le Trésor de TF1 pour solenniser une augmentation du taux du livret A détenu quand même par 55 millions de Français. Alors pourquoi je dis qu'il s'invite et qu'il va solenniser ce qu'il va annoncer ? Parce qu'aujourd'hui, le taux livret A, il est dérisoire, il est de 0,5. Alors on dit qu'il va passer à 0,8, c'est ce que va annoncer le ministre. Évidemment, Bruno Le Maire va faire apparaître comme un coup de pouce au pouvoir d'achat, cette augmentation du taux du livret A. Mais en réalité, c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un taux du livret A, tiens, même à 1%, s'il passait à 1%, et que vous avez une inflation de 3%, dont je parlais tout à l'heure, ben en réalité, Patrick, vous avez une perte de 2% de pouvoir d'achat sur vos économies, sur nos économies qui sont placées sur le livret A. Le gouvernement, Emmanuel Macron, évidemment, n'en parle pas beaucoup, on préfère parler de la crise du Covid. Oui. Avance à pas de loup, ils prennent garde dans cette période électorale. Parce que la question centrale du pouvoir d'achat n'est pas seulement un sujet politique, c'est aussi un sujet vital pour beaucoup de familles, peut-être d'ailleurs prêtes, le moment venu, à réenfiler un gilet jaune.
Merci Éric Revel. Revel chaque matin, Revel en campagne. Et évidemment, ça suscite des réactions, des commentaires. On a d'ailleurs, avant de redonner la parole à Frédéric Dabi, Arlette Chabot,
on a Mohamed qui est en ligne, oui, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed.
Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour à vous, bonjour à vos invités, aux auditeurs. Oui. Voilà, je voulais réagir un petit peu sur la baguette de pain. Je remercie Michel-Édouard Leclerc et Elisabeth Lévy, je suis jamais d'accord avec elle pour une fois, oui, mais pas pour les mêmes raisons.
On va lui dire, ça lui fera plaisir, hein, Mohamed.
Ouais. C'est ouais.
Voilà, pour une fois, je trouve qu'elle a fait un bon article. Ouais, la baguette de pain à 29 centimes, je crois que certains, ils en ont besoin, même si chez le père. Moi, j'aimerais bien faire travailler le boulanger du coin, que souvent, c'est un copain, où on a grandi ensemble. Mais le problème, c'est quand vous voyez les salaires,
ben oui,
les retraites, et quand vous voyez une grande famille, bon, elle va acheter la baguette à 29 centimes, mais en même temps, elle profite peut-être de la promo pour chausser ses enfants, peut-être une promo sur la viande, voilà comment ça fonctionne. Et je crois que si on veut que acheter chez le boulanger du coin ou l'épicier du coin, il faudrait peut-être penser aux gens un petit peu à les aider sur leur loyer. Oui. Et ceux qui n'ont pas de loyer, les propriétaires, souvent ils ont du mal à entretenir leur maison parce que voilà, la vérité c'est là. Et je suis content qu'on soulève ce problème de la baguette de pain, du pain, parce que au moins on oublie le virus, on passe aux vraies choses, aux réalités des Français de tous les jours,
ce qu'ils vivent au quotidien, quoi, bien sûr, quoi. Et Mohamed, on peut ajouter en fait à ça, vous parlez de cette baguette en fait de pain, évidemment, qui est symbolique. Hein, et Leclerc, à chaque fois, il est très bon en communication, incontestablement, c'est le roi de la pub, hein, bien sûr, des opérations marketing.
Mais je crois qu'il a soulevé un vrai problème.
Oui. Mais derrière ça, il y a un vrai problème, parce qu'il y a eu l'augmentation des prix du beurre. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec le lait qui revient. Il y a donc cette question de l'énergie avec l'électricité. Vous avez vu que bon, il y a eu un accord hier soir pour limiter et rester à cette augmentation de 4%. Sinon, en fait, les prix allaient s'envoler. Vous savez qu'à l'étranger, dans beaucoup de pays, chez nos voisins européens, les prix de l'électricité là, sont en train d'augmenter entre 20 et 30%. 20 et 30%. Vous imaginez donc ce que ça représente alors qu'on demande en fait à chacun de se chauffer à l'électricité, les usines qui tournent en fait à l'électricité, les entreprises, les bureaux et de plus en plus en fait les automobilistes aussi puisqu'on les dirige vers l'électricité. Les automobilistes qui ailleurs, d'ailleurs aussi, on voit les conséquences en fait aussi de cette inflation que soulevait Éric Revel en fait à l'instant parce qu'on atteint des prix records en fait à la pompe et ce n'est pas fini ce que nous disait un expert ce matin. Et ça Mohamed, bah, vous le voyez sur le terrain quoi, bien sûr.
Mais tout à fait, mais regardez, mais même sans aller à l'étranger, chez nous, vous avez des gens qui ne chauffent pas et avec leur retraite ou alors qui sont en fin de droit au chômage ou qui gagnent le SMIC, ils ne se chauffent pas.
Bah, bien sûr.
Des personnes âgées qui ne chauffent qu'une pièce. En
fait. Oui, bien sûr.
J'ai des gens autour de moi et puis bon, quand on parle des prix, le fruits et légumes et tout le reste, je vais vous donner un seul exemple.
Oui.
J'habite une petite commune pas trop loin de Perpignan. Mmh. J'ai des copains d'enfance qui sont agriculteurs, jardiniers. Ils vendent leurs produits, je ne vous dis pas quel produit, très cher. Et une fois, je me suis aventuré à leur acheter un kilo, je ne vous dis pas le produit. Je l'ai payé 5,50 €. Le même produit, la semaine d'après, je l'ai trouvé chez Auchan à 2,46 €.
Ah vous oui, voyez, bah,
là,
ouais.
Ben voilà, là, l'agriculteur, il n'a pas de transport à faire, il n'a pas d'emballage à faire, il n'a rien à faire, donc vous allez l'acheter chez lui. Je ne comprends pas la différence de prix. Il faut regarder ça aussi.
Non, mais c'est vrai. Merci, hein, Mohamed, de votre témoignage. Est-ce que, évidemment, cette question du pouvoir d'achat peut peser beaucoup, là, et faire changer un petit peu les intentions de vote, Frédéric David?
Oui, je pense qu'elle peut être majeure. Pour l'instant, elle est un petit peu freinée par le contexte tout Covid, mais comme le disait Eric, ça peut être un sujet majeur. On se souvient qu'en 2007, c'était le premier sujet de motivation, de déterminant du vote des Français. Nicolas Sarkozy l'avait capté assez habilement avec le travailler plus pour gagner plus. En tout cas,
en 2007,
la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. Et c'était la première fois que le pouvoir d'achat était si haut dans une campagne présidentielle. Le souci, en 2007, il n'y avait pas de sortant.
Ouais.
En 2022, il y a un sortant. Si cet enjeu devient un enjeu structurant de la campagne, c'est un danger mortel pour Emmanuel Macron parce que on va très rapidement
venir dire que c'est lui le responsable.
Café de sortant et son bilan va devenir un passif. Et on l'avait bien vu déjà au mois d'octobre, avant que la vague Omicron n'arrive, comme la majorité présidentielle était inquiète. Et quand je regardais nos enquêtes qualitatives, les Français spontanément qui reprononçaient le mot inflation, la vie chère, le sentiment que le pouvoir d'achat était un enjeu majeur. Quand on voit dans notre rolling d'hier, il y a 14 points d'écart en termes de priorité entre pouvoir d'achat et chômage. Désormais, et je finis, l'injustice suprême pour les Français, ce n'est plus ne pas avoir de travail, c'est avoir un travail qui paye mal. On voit très bien comment le pouvoir d'achat peut être le plus.
Est-ce que ces sujets de fond pèsent véritablement dans les campagnes, Arlette Chabot, vous qui en avez vécu en fait quand même beaucoup.
Je reviens, effectivement, Eric avait tout à fait raison tout à l'heure de parler phénomène gilet jaune. Qu'est-ce que c'était les gilets jaunes, si ce n'est effectivement on travaille,
bien sûr.
Et on gagne notre vie, on bosse, on se lève tôt, et on n'y arrive pas. Donc c'est le summum de l'injustice, absolument. Donc ça peut effectivement peser. Après, le risque, évidemment, ça va être la compétition, la surenchère, entre on rase gratis, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC, les allègements de charges, qui va donner le plus pour persuader les Français qu'il est la seule à pouvoir effectivement leur redonner du pouvoir d'achat.
Oui, c'est vrai. Éric Revel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut incarner ce pouvoir d'achat aujourd'hui?
On a envie de dire, traditionnellement, les partis qui incarnent le pouvoir d'achat et qui en parlent, c'est plutôt les partis de gauche. Quand j'écoute Frédéric Dabi tout à l'heure, les partis de gauche, ils sont aux abonnés absents. C'est-à-dire que.
Non, mais est-ce que ça peut leur redonner
On est dans un drôle de moment. Parce qu'en réalité, cette campagne démarre. Le pouvoir d'achat, on vient d'expliquer pourquoi c'était fondamental et central. Mais en réalité, je pense que les Français ne croient plus aux promesses. Mmh. C'est ça qui est très paradoxal. Mmh. Donc c'est ça aussi qui crée cette espèce d'état de tension. C'est-à-dire que les politiques, ils ont beau dire à Anne Hidalgo, je vais augmenter le SMIC de 15%, les Français, c'est même pas ça qu'ils attendent malheureusement. Ils ont un problème de pouvoir d'achat, mais je pense qu'ils ne croient plus en la parole politique, et ils croient plus trop dans les programmes. Et donc c'est un vrai sujet. Et vous voyez que l'échappatoire entre... dans une campagne électorale entre des gens qui ne croient plus et qui vont aller voter et des politiques qui proposent et qui sont à la cave en termes de sondage, ça devient un problème de démocratie.
Ouais. Frédéric Dabimier, est-ce que ça peut redonner justement des ailes à la gauche peut-être, que si elle allait davantage sur ce sujet, elle pourrait exister un petit peu plus ou pas ?
Oui, c'est-à-dire, sur le papier ce n'est pas impossible, mais la gauche est tellement peu audible. En ce moment, quand on travaille spontanément sur que mémorisent les Français par rapport au discours de gauche, la seule chose qui mémorise, c'est des questions de mécano, de mécanique électorale. Union ou pas union, primaire populaire. C'est intéressant
ce
politologiquement.
Oui,
mais ça ne parle, et Arlette Chabot le disait tout à l'heure, ça ne parle en rien du quotidien des Français. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que si le pouvoir d'achat arrive comme premier thème de la campagne, ça va gêner énormément Emmanuel Macron, qui, on avait vu avec la majorité présidentielle dès la rentrée de septembre, était sur un « ça va mieux », étalait leur bilan qui n'est pas inexistant. Hein. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations salariales, la prime pour l'emploi, et ça va peut-être donner des ailes aux partis aussi
Frédéric,
protestataires.
Si je poursuis votre analyse, c'est peut-être la raison pour laquelle Emmanuel Macron et le gouvernement font durer, perdurer, traîner cette crise du Covid.
Ce n'est pas
en réalité.
Si c'est, je ne sais pas si c'est sciemment et ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que pour l'instant, situation figée avantage fortement le sortant qui bénéficie d'un effet drapeau.
Restez avec nous, on va continuer. Vous pouvez réagir à tout ce qui se dit. 0826 300 300, on attend évidemment vos appels. Est-ce que le pouvoir d'achat, selon vous, peut être et sera l'une des questions essentielles de cette campagne, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les questions de sécurité, d'immigration ou alors d'écologie ? Tiens, à ce propos, Pierre Laroutrou, vous savez, eurodéputé du groupe socialiste et démocrate, qui est fondateur du parti Nouvelle Donne, il a entamé une grève de la faim pour un candidat de gauche unique, et il parle beaucoup justement d'environnement, d'écologie. On va voir où il en est. On l'appelle dans un instant, et vous pourrez lui poser une question en direct si vous le souhaitez d'ailleurs. Allez-y.
Il est 9h17, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, les grands débats du matin, et ce matin, une grève de la faim pour un candidat de gauche unique. Pierre Laroutrou est avec nous, eurodéputé du groupe socialiste et démocrate et fondateur du parti Nouvelle Donne.
Oui, bonjour Pierre Laroutrou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Où en êtes-vous de votre grève de la faim que vous avez entamée il y a maintenant, je crois, 10 jours à peu près, Pierre Laroutrou, pour cette candidature unique. Où en êtes-vous alors ?
On a entamé une grève de la faim parce qu'on se dit que c'est dramatique si on perd encore 5 années sur la question du climat. Que si Emmanuel Macron est encore réélu, ce sera dramatique pour les retraites, pour l'éducation nationale, pour l'hôpital. Depuis 5 ans, Emmanuel Macron avait toutes les cartes en main. Beaucoup de gens espéraient qu'il allait renouveler le pays. Et en particulier sur le climat, il n'a quasiment rien fait. Le Conseil d'État a sanctionné le gouvernement, le Conseil pour le climat aussi. Donc on se dit que ce serait vraiment dramatique sur les retraites. Emmanuel Macron dit que s'il est réélu, il va baisser les retraites. Ma belle-mère a été femme de ménage toute sa vie, elle est à la retraite. Le niveau moyen d'une retraite pour une femme, c'est 800 euros par mois. Je ne vois pas comment on peut encore baisser les retraites. Donc, on veut absolument qu'il y ait une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir au mois d'avril. Et ça n'est possible que s'il y a un rassemblement des candidats de la gauche et de l'écologie, parce que si on est divisé, on va perdre.
Oui.
Et donc, on demande aux gens d'aller sur le site de la primaire populaire, primairepopulaire.fr, pour dire qu'ils veulent le rassemblement. On est déjà plus de 300 000 à vouloir ce rassemblement. Et donc, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a fait cette grève de la faim, pour dire... Il y aura des milliers de morts si on ne fait rien sur la question du dérèglement climatique. Quand vous voyez, il y a eu 200 morts en Allemagne dans les inondations cet été. Il y a eu des inondations dans le Var. Chaque année, il y a des gens dans le sud de la France qui meurent dans les inondations. Et ce serait dramatique de ne rien faire sur le climat, sur les hôpitaux, sur les retraites pendant 5 ans.
Oui. Alors, et du coup, Pierre Laroutrou, puisque avec ça, vous vouliez qu'il y ait cette primaire. Est-ce que vous avez obtenu quand même quelque chose ? Vous avez parlé de ces 300 000 donc, personnes qui sont venues sur votre site.
Sur mon site, c'est une initiative primairepopulaire.fr. pas mon site.
Non, mais bien sûr. Non, mais parce que vous êtes aussi derrière, c'est pour ça. C'est ce que je voulais dire.
Je fais partie des 300 000 qui veulent ce rassemblement. Je suis là comme père de famille, je ne suis pas là comme député européen. Je suis là comme, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Que des millions de gens ont entendu parler de la possibilité de se rassembler. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages. Il y en a quelques-uns qui nous ont critiqués. Mais beaucoup de gens ont envoyé des messages très sympathiques. Oui. Des millions de gens ont entendu parler. Vous m'avez invité, Le Monde, Ouest France, même Nicolas Canteloup, on a parlé sur TF1 à deux reprises. Oui. Donc le but, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui souffrent au quotidien de la précarité, des agriculteurs, des retraités, des artisans. On veut leur montrer qu'il y a un espoir. Et le seul espoir, c'est si on se rassemble, primairepopulaire.fr. Bon. Donc on a obtenu que des millions de gens en entendent parler, sachent qu'il y a de l'espoir. Et je pense que du coup, la primaire populaire sera le rassemblement le plus important. Il y avait eu 120 000 personnes qui avaient voté pour la primaire écolo, 120 000, 140 000 pour la primaire de la droite, qui a fait gagner Valérie Pécresse. Et maintenant, on dit que Pécresse pourrait être au deuxième tour. Et donc, nous, on sait qu'on sera déjà beaucoup plus nombreux et que la primaire des écolos et que la primaire de la droite. Mais il faut continuer. Tous ceux et celles qui nous écoutent peuvent. C'est 2 minutes, c'est gratuit. On va vous demander votre carte bleue pour vérifier que vous êtes une vraie personne. Oui. Mais c'est gratuit. Allez sur primairepopulaire.fr.
Oui. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer justement à gauche? Parce qu'il va y avoir quand même une primaire, mais où il n'y aura finalement pas beaucoup de monde, puisque les principaux candidats, Christiane Taubira, mais il n'y aura ni Anne Hidalgo, ni Yannick Jadot, ni Fabien
Roussel. Ça peut encore changer.
Ah bon?
Patrick, vous êtes un beau connaisseur de la vie politique. Vous vous souvenez quand Xavier Bertrand avait dit qu'il n'irait jamais dans la primaire de la droite, et puis finalement, il est allé dans la primaire de la droite, et ça a créé une dynamique.
Oui, mais là, maintenant, ça devient urgent quand même.
Ça devient urgent, c'est pour ça qu'on a fait une grève de la faim, parce que 5 années de perdu pour les hôpitaux, j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital qui disent que l'hôpital peut s'effondrer si on continue avec la même politique pendant 5 ans. Donc c'est très concret la politique. Pour moi, ce n'est pas le problème de l'avenir de Jadot ou de Hidalgo, en fait, ce n'est pas ça du tout le sujet, c'est l'avenir de l'hôpital, c'est l'avenir des retraites, c'est l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir du climat, donc c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Ouais. Macron n'a rien fait pendant 5 ans en France, il a bloqué. Je suis député européen, rapporteur général du budget. Je suis quand même le rapporteur du budget, de tout le budget de l'Europe pour le Parlement. Et je peux dire que Macron a bloqué quand certains voulaient une taxe sur la spéculation pour avoir plus d'argent pour le climat ou pour les hôpitaux. Donc Macron est non seulement néfaste en France, mais il est néfaste au niveau européen. Donc il faut qu'on se rassemble. Et ça peut encore se faire en février. Il ne faut pas être trop pessimiste.
Vous croyez, alors vous croyez, parce que c'est vrai que c'est en train quand même de bouger. Christiane Taubira donc va y participer. Elle pourrait être représentante et ensuite se présenter à la présidentielle. Ça veut dire que quand même, dans ce camp, socialiste, en fait, au sens large, il y aurait deux candidates, puisque Anne Hidalgo maintient sa candidature. Mais il y a eu, par exemple, des défections, là, ces dernières heures. Benoît Payan, c'est pas n'importe qui, c'est le maire de Marseille. Bon, il ne soutient plus Anne Hidalgo. J'ai cru comprendre ça, en fait.
C'est plus positif. Benoît Payan, qui est le maire de Marseille, qui, avec une belle équipe, a créé la surprise à Marseille, est en train de changer. Ça y est, en quelques mois, il change la ville sur les questions de logement, sur les questions d'éducation. À Marseille, ils font du bon boulot. Et Benoît Payan a dit « Je soutiendrai celui ou celle qui va gagner la primaire populaire ». Il n'a pas dit « Je soutiendrai pas Hidalgo ». Et Anne Hidalgo… Anne Hidalgo a dit qu'a priori, elle allait dans la primaire populaire. Donc, n'inventons pas… Voilà. Et donc, Benoît Payan, comme beaucoup de gens, dit « Je soutiendrai celui ou celle qui va gagner la primaire populaire ». C'est le seul moyen.
Anne Hidalgo, elle ne va pas aller à cette primaire. Elle l'a redit cette semaine, quoi.
Elle a dit que si Yannick Jadot ne venait pas, elle ne viendrait pas. Et autour de Yannick Jadot, il y a qui disent à Jadot, tu devrais rentrer dans la primaire populaire. C'est ce que disait Canteloup l'autre jour sur TF1, que Jadot serait trop con. C'est Cohn-Bendit qui le disait dans la bouche de Canteloup, que ce serait trop bête qu'il ne vienne pas dans la primaire populaire, parce que le seul moyen de gagner, c'est de rassembler les gens. Au Chili, celui qui vient de gagner l'élection, c'est quelqu'un qui avait gagné d'abord la primaire. Ouais. En Allemagne, les écolos espéraient gagner tout seuls. Ils ont gagné dans une coalition avec les socialistes. Et là, ils vont augmenter. En Allemagne, ça y est, ils ont gagné ensemble. Ils vont augmenter de 25% le salaire minimum en Allemagne, ils vont augmenter les retraites et accélérer la lutte contre le dérèglement climatique. Oui. Donc moi, je dis à Yannick Jadot, est-ce que tu veux faire 7 ou 8% et être un leader de l'opposition, ou est-ce que tu veux être dans une équipe qui gagne, comme nos amis en Allemagne ou comme nos amis au Chili, et qui change la vie?
Oui. Non, mais Pierre Larrotourou, vous y croyez encore, donc, à une certaine dynamique, en fait, à gauche. On va revoir ça dans un instant. Restez avec nous, Pierre Larrotourou. Frédéric Dabi est avec nous, Éric Revel et Arlette Chabot. On va y revenir, et notamment sur aussi quelque chose qui est peut-être encore absent. Ce que l'on disait tout à l'heure, à gauche, c'est les questions aussi autour du pouvoir d'achat d'un public en fait populaire qui et ça se sent de plus en plus, ça pousse évidemment dans les enquêtes et puis parce que sur le terrain il y a ce ressenti qui est extrêmement fort.
On y revient. Patrick, pardon, Patrick, pardon de vous couper. Je viens de vous dire que la coalition qui arrive en Allemagne, socialiste et écolo, va augmenter de 25% plus 25% le salaire minimum. Si vous faites en même temps baisser les loyers et les charges de chauffage, c'est pas mal pour le pouvoir d'achat.
Absolument. Ben, on y revient dans un instant, justement.
Restez avec nous. Il est 9h28, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h31, juste pour vous rappeler qu'à 9h45, on va vous parler de climat, puisque avec un climatologue, on en parlait il y a quelques instants, hein, puisque l'année 2021 devient la cinquième année la plus chaude de l'histoire jamais enregistrée. On en parlera avec un climatologue et le président de l'association de l'Observatoire des glaciers des Pyrénées français, puisque malheureusement, les Pyrénées sont en voie de disparition. En attendant,
enfin,
ce matin...
En voie de disparition, faut pas plus. Non, des glaciers.
Ils s'éteignent au fur et à mesure, donc ils sont en voie de disparition.
Mais effectivement, c'est un cri d'alerte lancé par certains qui seront avec nous dans la France à vos côtés dans un instant. Nous sommes toujours aussi donc avec Pierre Laroutourou qui est avec nous. On parlait en fait de la gauche. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Mais s'il y a Pierre Laroutourou...
On ne parlait pas de la gauche, on parlait de l'urgence climatique. J'ai fait le Vignemale avec un de mes fils il y a deux ans. Il n'y a plus de glaciers, effectivement. Il n'y aura plus d'eau. Oui. On a dû arrêter Golfech. Il n'y avait pas assez d'eau dans la Garonne. On a dû arrêter la centrale nucléaire de Golfech.
Donc si on continue comme ça, justement,
dans 20 ans, c'est le chaos. Mon problème, c'est pas la gauche, c'est les retraites, c'est l'hôpital, c'est l'éducation nationale et c'est l'avenir de la planète. Ouais. C'est pas la gauche.
Non, mais c'est vrai. Mais sauf que vous appelez justement à un grand rassemblement en fait de la gauche. Est-ce que c'est pas un souci d'ailleurs? Et on pose souvent cette question à Yannick Jadot, qui se revendique beaucoup en fait de gauche. L'écologie, ça ne doit pas être de gauche. C'est un sujet qui concerne en fait tout le monde. Si on veut rassembler, il faut être capable d'aller en fait faire de la pédagogie aux gens. Alors que on dit que le pays a 70% à droite. Donc si on dit que l'écologie est avant tout à gauche, Pierre Laroutourou, vous n'allez pas réussir à rassembler autour de vous pour mobiliser autour de cette question.
Je vous dis, mon sujet, ce n'est pas l'avenir de Hidalgo, de Jadot ou de Mélenchon.
Oui.
Mon sujet, c'est l'avenir des retraites. Je pense à ma belle-mère. Je pense l'autre jour, on allait acheter une bouteille de champagne pour le réveillon. Oui. Et devant moi, j'ai vu une vieille dame qui collectionnait les pièces jaunes et les pièces rouges pour s'acheter des carottes râpées pour le réveillon.
Oui.
Donc voilà, quand moi je parle des retraites, c'est très, très concret. Quand je parle, et moi, mon but sur le climat, avant d'être député, j'avais lancé une initiative avec un des plus grands climatologues, Jean Jouzel. Il y avait tous les maires ruraux de France, qui nous soutenaient pour dire oui, on peut taxer la spéculation pour donner de l'aide à toutes les familles pour isoler leur maison ou pour aider les villages. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a pas de transport en commun.
Oui.
Tous ceux qui travaillent doivent prendre la voiture pour aller à Argelès, à Pierrefitte, il n'y a pas de transport en commun.
Oui.
Il faut des milliards pour isoler chaque famille, aider chaque famille pour isoler sa maison, faire les transports en commun. Donc je me bats pour une taxe sur la spéculation et c'est Emmanuel Macron qui a bloqué la négociation. Comme rapporteur du budget, j'ai eu la preuve par une lettre du ministre autrichien que Angela Merkel, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie voulaient une taxe sur la spéculation qui donnerait chaque année 60 milliards d'euros. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui l'a bloqué. Tous, quand on fait nos courses, on paye tous de la TVA. Même les plus pauvres, ils payent 5,5%.
Bien sûr, ça c'est vrai. Pierre Laroutourou, question autour de la table, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde. Arlette Chabot, que vous connaissez bien, Frédéric Dabi, Éric Revel. Éric Revel,
oui,
peut-être.
Monsieur Laroutourou, je voulais vous poser une question. L'écologie, comme disait Patrick Roger, pas de gauche, mais pas de droite, elle devrait être un peu universelle dans le paysage politique. Est-ce que, alors ça vous semblait un peu provocateur, ce que je vous pose comme question, mais vous appelez à un rassemblement de la gauche, bon, on peut comprendre vu l'état des forces et des sondages aujourd'hui, mais la droite pourrait aussi porter la question écologiste. Il faudrait peut-être appeler à un rassemblement de la droite, vous voyez.
Mais il y a une partie de la droite qui a bougé. On avait fait un événement il y a 4 ans à Jussieu, il y avait Alain Juppé, il y avait Laurence Parizeau du MEDEF. Il y a des gens, voilà, on a été reçu par le pape, qui n'est ni à droite ni à gauche, on a été reçu par le pape François. Non mais pardon, on a été reçu par le pape François, qui a dit qu'il était d'accord pour dire qu'on devait taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux et pour le climat. Donc oui, c'est a priori, vu la gravité du problème et vu façon dont ça peut créer, on peut créer 900 000 emplois en France, si on prend sérieux la question du climat. L'autre jour, je voyais un monsieur qui vivait dans HLM, il me disait, j'ai gagné 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage, depuis qu'on a isolé mon HLM, je vis mieux. J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses. Voilà. Mais simplement, objectivement, Emmanuel Macron, depuis 4 ans et demi, n'a quasiment rien fait. Je n'ai rien contre Macron. Quand il a créé le Haut Conseil pour le climat, je suis un des 9 sages qu'il a mis au Haut Conseil pour le climat. J'ai cru au début, j'ai cru qu'il allait faire des choses pour le climat, pour l'Europe. Mais manifestement, il y a tous les 6 mois, il y a le Conseil d'État.
Vous y avez cru et donc vous n'y croyez pas pour justement
à ce mandat. Aujourd'hui, c'est juste la réalité. Il a pris 10% des propriétaires.
Oui. Pierre Laroutourou, question d'Arlette Chabot aussi.
Pierre Laroutourou, s'il y a une urgence climatique, en tout cas, le candidat Jadot, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on pensait même qu'il y aura un électorat jeune, notamment, qui irait soutenir Yannick Jadot, dont la promesse principale, évidemment, concerne la transition écologique et climatique. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le candidat n'est pas bon? Parce que le sujet, finalement, est toujours considéré comme secondaire, à tort, sans doute, selon vous, par les Français?
Premièrement, je pense que tant qu'on reste divisé et qu'il n'y a aucun candidat qui dépasse les 10% dans les sondages, les gens se disent, de toute façon, ils n'ont aucune chance, de toute façon, ils se divisent entre eux, de toute façon, c'est des petites guerres de chapelle, premièrement. Deuxièmement, la question du climat est dramatique. Je suis allé en Afrique, ils parlent du sida climatique, si on ne fait rien. Déjà, en Allemagne, il y a eu 200 morts, pas seulement en Afrique, il y a eu 200 morts cette année.
Mais ce n'est pas le sujet.
Pardon, mais si on parle que du climat.
Les 18-24 ans, sondage IFOP, je ne sais pas, je crois. Dans le JDD, ils votent Macron, Le Pen, Zemmour. Ouais. Et Mélenchon est derrière Jadot, je crois, à 8 points.
Ouais, c'est ça.
À 8 points. Donc, si vous voulez, la cause climatique, oui, mais les jeunes ne s'intéressent pas à Jadot. Hein.
Ouais.
C'était la question d'Arlette.
Ouais. C'est la question d'Arlette. Ouais.
Premièrement, donc, je pense que si on est divisé, aucun de nous n'est crédible et les gens se disent à quoi ça sert. Le total des 5 candidats gauche et écolo était à 31% il y a quelques mois, il est tombé à 23%. Nos divisions sont ridicules. Voilà, premièrement. Deuxièmement, si on ne parle que du climat, effectivement, en même temps, les gens savent que c'est très grave, mais les étudiants qui vont manger à la soupe populaire, les retraités qui vivent avec 800 euros, j'ai une amie qui est au RSA, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, elle a peur que ce soit un huissier pour la foutre dehors. Mmh. Donc, si on ne parle que du climat, si on ne parle pas aussi des retraites, de l'hôpital, de l'éducation nationale, d'améliorer le pouvoir d'achat, de créer des emplois, on ne peut pas être entendu par ceux qui s'inquiètent pour comment est-ce qu'ils vivent dans 2 mois, est-ce qu'ils auront un nouveau contrat de travail. Ouais. Donc, je pense qu'il faut une réponse très ambitieuse sur la question du climat, mais aussi une réponse très concrète et chiffrée qu'on dise comment on peut financer une amélioration des salaires, comment on peut financer la création d'emplois.
Oui, Pierre Laroutourou, question technique en fait à Frédéric Dabi. Est-ce qu'il peut y avoir, parce qu'on voit la gauche est à la cave, hein, très clairement en fait, dans les sondages, hein, 22, 23, etc. Donc, il peut y avoir peut-être est-ce qu'il peut y avoir une dynamique et comment ça se déclenche en fait, une dynamique? Vous, dans les intentions de vote, est-ce que, je ne sais pas, Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut émerger? Est-ce que Jadot peut de nouveau émerger? Mélenchon peut remonter
Je pense que la dynamique n'est pas complètement liée à union ou pas union. Hein. Ouais. En 74, un candidat de gauche unique, la gauche perd. En 81, François Mitterrand est face à beaucoup de candidats de gauche, il gagne. Non, la dynamique peut venir sur la question de la crédibilité de cette gauche, sur peut-être des choses comme les débats d'avant le premier tour qui pourraient faire émerger une personne. Sur Yannick Jadot, c'est vrai qu'il est sur une thématique qui compte beaucoup plus que par le passé pour les Français comme déterminant du vote, hein, 16 points de plus entre 2017 et 2021, mais il y a un problème d'incarnation. Il ne faut pas oublier qu'il est peu connu de l'ensemble des Français, et puis il faut le dire, il est terriblement gêné par une candidate bis, à savoir Sandrine Rousseau, qui sciemment ou pas sciemment, c'est pas moi de le dire, sabote un peu la construction de sa relation avec les Français. Mais c'est vrai que là, avec une gauche qui est si faible et une dispersion de l'offre électorale si forte, c'est clairement la voie vers un troisième 21 avril dont les gens de gauche ont conscience, parce que quand on les interroge, ils sont 70% à dire il faut une candidature unique, mais ça ne prend pas le chemin.
Bon, voilà. Pierre Laroutourou, merci d'avoir été avec nous. Et vous arrêtez
ceux qui veulent cette candidature unique, allez sur primairepopulaire.fr. Chacun de nous, vraiment. Ouais. Un ami d'Yannick Jadot m'a dit, si on arrive à 500 000 personnes sur le site de la primaire populaire, Jadot viendra. Donc chacun de nous peut prendre 2 minutes pour aller sur le site de la primairepopulaire.fr. Voilà. C'est gratuit. On va vous demander la carte bleue pour vérifier que vous êtes une vraie personne, mais c'est gratuit. Allez sur le site.
Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est toujours un petit risque. Quand on dit carte bleue,
c'est pour ça que je vous préviens, c'est gratuit, mais pour vérifier que vous n'êtes pas un robot informatique, et que vous êtes une vraie personne vivant en France, on va vous demander la carte bleue, mais c'est 0 centime.
Bon, je prends celle de Frédéric Dabi. Vous arrêtez quand même votre grève de la faim, là, Pierre Laroutourou.
On va l'arrêter cet après-midi, parce qu'on a déjà 3 à qui les médecins ont dit qu'il valait mieux s'arrêter, qu'il y avait des problèmes de tachycardie. On n'a pas envie de mourir, on a envie d'éviter des millions.
Merci, et on va suivre ça ce week-end et la semaine prochaine, en fait, autour de cette primaire populaire. Dans un instant, puisqu'on parlait du climat, merci, hein, puisqu'on parlait de climat, Cécile, la France à vos côtés ce matin.
Puisqu'on parlait de climat, je disais tout à l'heure, l'année 2021 est la 5e année la plus chaude de l'histoire jamais enregistrée, hein, la planète ravagée, vous l'avez vu, des canicules, du grand froid, des incendies, enfin bref, on en parlera dans quelques instants avec un climatologue, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et puis, on fera un point sur ces glaciers. glaciers qui sont en train de disparaître, ouais. Et les uns derrière les autres, les glaciers des Pyrénées français, avec Pierre René qui sera avec nous, président de cette association Moraine. Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, si vous voulez témoigner.
Attention, ce matin, c'est glacé, pas glacier.
Ah, hein. C'est drôle.